Chapitre 9. Lorsque nous fûmes amarrés, je descendis à terre avec plusieurs officiers afin de reconnaître un lieu propre à faire de l'eau. Nous fûmes reçus par une foule d'hommes et de femmes qui ne se lassaient point de nous considérer. Les plus hardis venaient nous toucher. Ils écartaient même nos vêtements, comme pour vérifier si nous étions absolument faits comme eux. Aucun ne portait d'armes, pas même de bâton. Ils ne savaient comment exprimer leur joie de nous recevoir. Le chef de ce canton nous conduisit dans sa maison et nous y introduisit. Il y avait dedans 5 ou 6 femmes et un vieillard vénérable. Les femmes nous saluèrent en portant la main sur la poitrine et criant plusieurs fois « Taïo ». Le vieillard était père de notre hôte. Il n'avait du grand âge que ce caractère respectable qu'imprime les ans sur une belle figure, sa tête ornée de cheveux blancs et d'une longue barbe, tout son corps nerveux et rempli, ne montrait aucune ride, aucun signe de décrépitude. Cet homme vénérable parut s'apercevoir à peine de notre arrivée. Il se retira même sans répondre à nos caresses, sans témoigner ni frayeur, ni étonnement, ni curiosité. Fort éloigné de prendre part à l'espèce d'extase que notre vue causait à tout ce peuple, son air rêveur et soucieux semblait annoncer qu'il craignait que ses jours heureux, écoulés pour lui dans le sein du repos, ne fussent troublés par l'arrivée d'une nouvelle race. On nous laissa la liberté de considérer l'intérieur de la maison. Elle n'avait aucun meuble, aucun ornement qui la distinguât des cases ordinaires, que sa grandeur. Elle pouvait avoir 80 pieds de long sur 20 pieds de large. Nous y remarquâmes un cylindre d'osier, long de 3 ou 4 pieds et garni de plumes noires, lequel était suspendu au toit, et 2 figures de bois que nous prîmes pour des idoles. L'une, c'était le dieu, était debout contre un des piliers. La déesse était vis-à-vis, inclinée le long du mur qu'elle surpassait en hauteur et attachée au roseau qui le forme. Ces figures mal faites et sans proportion avaient environ 3 pieds de haut, mais elles tenaient à un piédestal cylindrique, vidé dans l'intérieur et sculpté à jour. Il était fait en forme de tour et pouvait avoir 6 à 7 pieds de hauteur, sur environ 1 pied de diamètre. Le tout était d'un bois noir fort dur. Le chef nous proposa ensuite de nous asseoir sur l'herbe au dehors de sa maison, où il fit apporter des fruits, du poisson grillé et de l'eau. Pendant le repas, il envoya chercher quelques pièces d'étoffe et 2 grands colliers faits d'osier et recouverts de plumes noires et de dents de requin. Leur forme ne ressemble pas mal à celle de ces fraises immenses qu'on portait du temps de François Ier. Il en passa un au col du chevalier d'oraison, l'autre au mien, et distribua les étoffes. Nous étions prêts à retourner à bord, lorsque le chevalier de Suzanée s'aperçut qu'il lui manquait un pistolet qu'on avait adroitement volé dans sa poche. Nous le fîmes entendre au chef qui, sur le champ, voulut fouiller tous les gens qui nous environnaient. Il en maltraita même quelques-uns. Nous arrêtâmes ses recherches en tâchant seulement de lui faire comprendre que l'auteur du vol pourrait être la victime de sa friponnerie et que son larcin lui donnerait la mort. Le chef et tout le peuple nous accompagnèrent jusqu'à nos bateaux. Prêts à y arriver, nous fûmes arrêtés par un insulaire d'une belle figure qui, couché sous un arbre, nous offrit de partager le gazon qui lui servait de siège. Nous l'acceptâmes. Cet homme alors se pencha vers nous et d'un air tendre, aux accords d'une flûte dans laquelle un autre indien soufflait avec le nez, il nous chanta lentement une chanson, sans doute anacréontique, scène charmante et digne du pinceau de boucher. 4 insulaires vinrent avec confiance souper et coucher à bord. Nous leur fîmes entendre flûte, basse, violon, et nous leur donnâmes un feu d'artifice composé de fusées et de serpenteaux. Ce spectacle leur causa une surprise mêlée d'effroi. Le 7 au matin, le chef, dont le nom était Réti, vint à bord. Il nous apporta un cochon, des poules et le pistolet qui avait été pris la veille chez lui. Cet acte de justice nous en donna bonne idée. Cependant, nous fîmes dans la matinée toutes nos dispositions pour descendre à terre nos malades et nos pièces à l'eau et les y laisser en établissant une garde pour leur sûreté. Je descendis l'après-midi avec armes et bagages et nous commençâmes à dresser le camp sur les bords d'une petite rivière où nous devions faire notre eau. Hereti vit la troupe sous les armes et les préparatifs du campement sans paraître d'abord surpris ni mécontent. Toutefois, quelques heures après, il vint à moi accompagné de son père et des principaux du canton qui lui avaient fait des représentations à cet égard et me fit entendre que notre séjour à terre leur déplaisait, que nous étions les maîtres d'y venir le jour tant que nous voulions, mais qu'il fallait coucher la nuit à bord de nos vaisseaux. J'insistais sur l'établissement du camp, lui faisant comprendre qu'il nous était nécessaire pour faire de l'eau, du bois et rendre plus faciles les échanges entre les deux nations. Ils tinrent alors un second conseil, à l'issue duquel Hereti vint me demander si nous resterions ici toujours ou si nous comptions repartir et dans quel temps. Je lui répondis que nous mettrions à la voile dans 18 jours, en signe duquel nombre je lui donnais 18 petites pierres. Sur cela, nouvelle conférence à laquelle on me fit appeler. un homme grave et qui paraissait avoir du poids dans le conseil, voulait réduire à 9 les jours de notre campement. J'insistai pour le nombre que j'avais demandé, et enfin ils y consentirent. De ce moment, la joie se rétablit. Eréti même nous offrit un hangar immense tout près de la rivière, sous lequel étaient quelques pirogues qu'il en fit enlever sur le champ. Nous dressâmes dans ce hangar les tentes pour nos scorbutiques, au nombre de 34, 12 de la boudeuse et 22 de l'étoile, et quelques autres nécessaires au service. La garde fut composée de 30 soldats, et je fis aussi descendre des fusils pour armer les travailleurs et les malades. Je restai à terre la première nuit qu'Eréti voulut aussi passer dans nos tentes. Il fit apporter son souper, qu'il joignit au nôtre, chassa la foule qui entourait le camp, et ne retint avec lui que 5 ou 6 de ses amis. Après souper, il demanda des fusées, et elles lui firent au moins autant de peur que de plaisir. Sur la fin de la nuit, il envoya chercher une de ses femmes qu'il fit coucher dans la tente de M. de Nassau. Elle était vieille et laide. La journée suivante se passa à perfectionner notre camp. Le hangar était bien fait et parfaitement couvert d'une espèce de natte. Nous y laissâmes qu'une issue, à laquelle nous mîmes une barrière et un corps de garde. Eréti, ses femmes et ses amis avaient seuls la permission d'entrer. La foule se tenait en dehors du hangar. Un de nos gens, une baguette à la main, suffisait pour la faire écarter. C'était là que les insulaires apportaient de toutes parts des fruits, des poules, des cochons, du poisson et des pièces de toile qu'ils échangeaient contre des clous, des outils, des perles fausses, des boutons et 1000 autres bagatelles qui étaient des trésors pour eux. Au reste, ils examinaient attentivement ce qui pouvait nous plaire. Ils virent que nous cueillions des plantes antiscorbutiques et qu'on s'occupait aussi à chercher des coquilles. Les femmes et les enfants ne tardèrent pas à nous apporter à l'envi des paquets des mêmes plantes qu'ils nous avaient vus ramasser et des paniers remplis de coquilles de toutes les espèces. On payait leur peine à peu de frais. Ce même jour, je demandai au chef de m'indiquer du bois que je pusse couper. Le pays bas où nous étions n'est couvert que d'arbres fruitiers et d'une espèce de bois plein de gomme et de peu de consistance. Le bois dur vient sur les montagnes. Eréti me marqua les arbres que je pouvais couper et m'indiqua même de quel côté il les fallait faire tomber en les abattant. Au reste, les insulaires nous aidaient beaucoup dans nos travaux. Nos ouvriers abattaient les arbres et les mettaient en bûches que les gens du pays transportaient au bateau. Ils aidaient de même à faire de l'eau, emplissant les pièces et les conduisant aux chaloupes. On leur donnait pour salaire des clous dont le nombre se proportionnait au travail qu'ils avaient fait. La seule gêne qu'on eut, c'est qu'il fallait sans cesse avoir l'œil à tout ce qu'on apportait à terre, à ses poches même, car il n'y a point en Europe de plus adroit filou que les gens de ce pays. Cependant, il ne me semble pas que le vol soit ordinaire entre eux. Rien ne ferme dans leur maison, tout y est à terre ou suspendu, sans serrure ni gardien. Sans doute la curiosité pour des objets nouveaux excitait en eux de violents désirs, et d'ailleurs il y a partout de la canaille. On avait volé les 2 premières nuits, malgré les sentinelles et les patrouilles auxquelles on avait même jeté quelques pierres. Les voleurs se cachaient dans un marais couvert d'herbes et de roseaux qui s'étendait derrière notre camp. On le nettoya en partie, et j'ordonnai à l'officier de garde de faire tirer sur les voleurs qui viendraient dorénavant. Eréti lui-même me dit de le faire, mais il eut grand soin de montrer plusieurs fois où était sa maison en recommandant bien de tirer du côté opposé. J'envoyais aussi tous les soirs 3 de nos bateaux armés de pierriers et d'espingoles se mouiller devant le camp. Au vol près, tout se passait de la manière la plus aimable. Chaque jour, nos gens se promenaient dans le pays sans armes, seuls ou par petites bandes. On les invitait à entrer dans les maisons, on leur y donnait à manger. Mais ce n'est pas à une collation légère que se borne ici la civilité des maîtres de maison. Ils leur offraient des jeunes filles. La case se remplissait à l'instant d'une foule curieuse d'hommes et de femmes qui faisaient un cercle autour de l'hôte et de la jeune victime du devoir hospitalier. La terre se jonchait de feuillages et de fleurs, et des musiciens chantaient aux accords de la flûte un hymne de jouissance. Vénus est ici la déesse de l'hospitalité. Son culte n'y admet point de mystère, et chaque jouissance est une fête pour la nation. Ils étaient surpris de l'embarras qu'on témoignait. Nos mœurs ont proscrit cette publicité. Toutefois, je ne garantirais pas qu'aucun n'ait vaincu sa répugnance et ne se soit conformé aux usages du pays. J'ai plusieurs fois été, moi, second ou troisième, me promener dans l'intérieur. Je me croyais transporté dans le jardin d'Éden. Nous parcourions une plaine de gazon, couverte de beaux arbres fruitiers et coupée de petites rivières qui entretiennent une fraîcheur délicieuse, sans aucun des inconvénients qu'entraîne l'humidité. Un peuple nombreux y jouit des trésors que la nature verse à pleine main sur lui. Nous trouvions des troupes d'hommes et de femmes assises à l'ombre des vergers. Tous nous saluaient avec amitié. Ceux que nous rencontrions dans les chemins se rangeaient à côté pour nous laisser passer. Partout, nous voyions régner l'hospitalité, le repos, une joie douce et toutes les apparences du bonheur. Je fis présent au chef du canton où nous étions d'un couple de dindes et de canards mâles et femelles. C'était le denier de la veuve. Je lui proposai aussi de faire un jardin à notre manière et d'y semer différentes graines, proposition qui fut reçue avec joie. En peu de temps, Hérétie fit préparer et entourer des palissades le terrain qu'avaient choisi nos jardiniers. Je le fis bêcher, ils admiraient nos outils de jardinage, ils ont bien aussi autour de leur maison des espèces de potagers garnis de giromons, de patates, d'ignames et d'autres racines. Nous leur avons semé du blé, de l'orge, de l'avoine, du riz, du maïs, des oignons et des graines potagères de toute espèce. Nous avons lieu de croire que ces plantations seront bien soignées, car ce peuple nous a paru aimer l'agriculture, et je crois qu'on l'accoutumerait facilement à tirer parti du sol le plus fertile de l'univers. Les premiers jours de notre arrivée, j'eus la visite du chef d'un canton voisin, qui vint à bord avec un présent de fruits, de cochons, de poules et d'étoffes. Ce seigneur, nommé Toutaha, est d'une belle figure et d'une taille extraordinaire. Il était accompagné de quelques-uns de ses parents, presque tous hommes de 6 pieds. Je leur fis présent de clous, d'outils, de perles fausses et d'étoffes de soie. Il fallut lui rendre sa visite chez lui. Nous fûmes bien accueillis, et l'honnête Toutaha m'offrit une de ses femmes fort jeune et assez jolie. L'assemblée était nombreuse, et les musiciens avaient déjà entonné les chants de l'hyménée. Telle est la manière de recevoir les visites de cérémonie. Le 10, il y eut un insulaire tué, et les gens du pays vinrent se plaindre de ce meurtre. J'envoyai à la maison où avait été porté le cadavre. On vit effectivement que l'homme avait été tué d'un coup de feu. Cependant, on ne laissait sortir aucun de nos gens avec des armes à feu, ni des vaisseaux, ni de l'enceinte du camp. Je fis sans succès les plus exactes perquisitions pour connaître l'auteur de cet infâme assassinat. Les insulaires crurent, sans doute, que leurs compatriotes avaient eu tort, car ils continuèrent à venir à notre quartier avec leur confiance accoutumée. On me rapporta cependant qu'on avait vu beaucoup de gens emporter leurs effets à la montagne, et que même la maison d'Hérétie était toute démeublée. Je lui fis de nouveau présent, et ce bon chef continua à nous témoigner la plus sincère amitié. Cependant, je pressais nos travaux de tous les genres, car encore que cette relâche fût excellente pour nos besoins, je savais que nous étions mal mouillés. En effet, quoique nos câbles, pommoyés presque tous les jours, n'eussent pas encore paru ragués, nous avions découvert que le fond était semé de gros corail. Et d'ailleurs, en cas d'un grand vent du large, nous n'avions pas de chasse. La nécessité avait forcé de prendre ce mouillage sans nous laisser la liberté du choix, et bientôt nous eûmes la preuve que nos inquiétudes n'étaient que trop fondées. Le 12, à 5 heures du matin, les vents étaient venus au sud. Notre câble du sud-est et le grelin d'une ancre à jet, que nous avions par précaution allongé dans l'est-sud-est, furent coupés sur le fond. Nous mouillâmes aussitôt notre grande ancre, mais avant qu'elle eût pris fond, la frégate vint à l'appel de l'ancre du nord-ouest, et nous tombâmes sur l'étoile que nous abordâmes à bâbord. Nous virâmes sur notre ancre, et l'étoile fila rapidement, de manière que nous fûmes séparés avant que d'avoir souffert aucune avarie. La flûte nous envoya alors le bout d'un grelin qu'elle avait allongé dans l'est, sur lequel nous virâmes pour nous écarter d'elle davantage. Nous relevâmes ensuite notre grande ancre et nous rembarquâmes le grelin et le câble coupé sur le fond. Celui-ci l'avait été à 30 brasses de l'entalingure. Nous le changeâmes bout pour bout et l'entalingâmes sur une ancre de rechange de 2700 que l'étoile avait dans sa cale et que nous envoyâmes chercher. Notre ancre du sud-est mouillée sans orin à cause du grand fond était perdue, et nous tâchâmes inutilement de sauver l'ancre âgée dont la bouée avait coulé et qu'il fut impossible de draguer. Nous guindâmes aussitôt notre petit mât de hune et la vergue de misaine, afin de pouvoir appareiller dès que le vent le permettrait. L'après-midi, il calma et passa à l'est. Nous allongeâmes alors dans le sud-est une ancre à jet et l'ancre reçue de l'étoile, et j'envoyai un bateau sonder dans le nord afin de savoir s'il n'y aurait pas un passage, ce qui nous eût mis à portée de sortir presque de tout vent. Un malheur n'arrive jamais seul. Comme nous étions tous occupés d'un travail auquel était attaché notre salut, on vint m'avertir qu'il y avait eu 3 insulaires tués ou blessés dans leur case à coups de baïonnette, que l'alarme était répandue dans le pays, que les vieillards, les femmes et les enfants fuyaient vers les montagnes emportant leurs bagages et jusqu'aux cadavres des morts, et que peut-être allions-nous avoir sur les bras une armée de ces hommes furieux. Telle était donc notre position de craindre la guerre à terre, au même instant où les deux navires étaient dans le cas d'y être jetés. Je descendis au camp, et en présence du chef, je fis mettre au fer 4 soldats soupçonnés d'être les auteurs du forfait. Ce procédé parut les contenter. Je passai une partie de la nuit à terre, où je renforçai les gardes, dans la crainte que les insulaires ne voulussent venger leurs compatriotes. Nous occupions un poste excellent entre deux rivières, distantes l'une de l'autre d'un quart de lieue au plus. Le front du camp était couvert par un marais, le reste était la mer dont assurément nous étions les maîtres. Nous avions beau jeu pour défendre ce poste contre toutes les forces de l'île réunies. Mais heureusement, à quelques alertes près occasionnées par des filous, la nuit fut tranquille au camp. Ce n'était pas de ce côté où mes inquiétudes étaient les plus vives. La crainte de perdre les vaisseaux à la côte nous donnait des alarmes infiniment plus cruelles. Dès 10 heures du soir, les vents avaient beaucoup fraîchi de la partie de l'est avec une grosse houle, de la pluie, des orages et toutes les apparences funestes qui augmentent l'horreur de ces lugubres situations. Vers 2 heures du matin, il passa un grain qui chassait les vaisseaux en côte. Je me rendis à bord. Le grain, heureusement, ne dura pas. Et dès qu'il fut passé, le vent vint de terre. L'aurore nous amena de nouveaux malheurs. Notre câble du nord-ouest fut coupé. Le grelin que nous avait cédé l'étoile et qui nous tenait sur son ancragé eut le même sort peu d'instants après. La frégate alors, venant à l'appel de l'ancre et du grelin du sud-est, ne se trouvait pas à une encablure de la côte où la mer brisait avec fureur. Plus le péril devenait instant, plus les ressources diminuaient. Les deux ancres, dont les câbles venaient d'être coupés, étaient perdues pour nous. Leurs bouettes avaient disparu, soit qu'elles eussent coulé, soit que les Indiens les eussent enlevées dans la nuit. C'était déjà 4 ancres de moins depuis 24 heures, et cependant il nous restait encore des pertes à essuyer. À 10 heures du matin, le câble neuf, que nous avions enlingué sur l'ancre de 2700 de l'étoile, laquelle nous tenait dans le sud-est, fut coupé, et la frégate, défendue par un seul grelin, commença à chasser en côte. Nous mouillâmes sous barbe notre grande ancre, la seule qui nous restât en mouillage, mais de quel secours nous pouvait-elle être? Nous étions si près des brisants que nous aurions été dessus avant que d'avoir assez filé de câbles pour que l'ancre pût prendre fond. Nous attendions à chaque instant le triste dénouement de cette aventure, lorsqu'une brise du sud-ouest nous donna l'espérance de pouvoir appareiller. Nos focs furent bientôt hissés, le vaisseau commençait à prendre de l'air, et nous travaillions à faire de la voile pour filer câbles et grelins et mettre dehors. Mais les vents revinrent presque aussitôt à l'est. Cet intervalle nous avait toujours donné le temps de recevoir à bord le bout du grelin de la seconde ancragée de l'étoile qu'elle venait d'allonger dans l'est, et qui nous sauva pour le moment. Nous virâmes sur les deux grelins et nous nous relevâmes un peu de la côte. Nous envoyâmes alors notre chaloupe à l'étoile pour l'aider à s'amarrer solidement. Ses ancres étaient heureusement mouillées sur un fond moins perdu de corail que celui sur lequel étaient tombés les nôtres. Lorsque cette opération fut faite, notre chaloupe alla lever par son orin l'ancre de 2700. Nous entalingâmes dessus un autre câble et nous l'allongeâmes dans le nord-est. Nous relevâmes ensuite l'ancragé de l'étoile que nous lui rendîmes. Dans ces 2 jours, M. de la Giraudet, commandant de cette flûte, a eu la plus grande part au salut de la frégate par les secours qu'il m'a donnés. C'est avec plaisir que je paie ce tribut de reconnaissance à cet officier, déjà mon compagnon dans mes autres voyages, et dont le zèle égale les talents. Cependant, lorsque le jour était venu, aucun Indien ne s'était approché du camp. On n'avait vu aucune pirogue, on avait trouvé les maisons abandonnées, tout le pays paraissait un désert. Le prince de Nassau, lequel avec 4 ou 5 hommes seulement s'était éloigné davantage dans le dessein de rencontrer quelques insulaires et de les rassurer, en trouva un grand nombre avec Héréti environ à 1 lieue du camp. Dès que ce chef eut reconnu M. de Nassau, il vint à lui d'un air consterné. Les femmes éplorées se jetèrent à ses genoux. Elles lui baisaient les mains en pleurant et en répétant plusieurs fois « Tayo Mate, vous êtes nos amis et vous nous tuez !» À force de caresses et d'amitié, il parvint à les ramener. Je vis du bord une foule de peuple à courir au quartier. Des poules, des cocos, des régimes de bananes embellissaient la marche et promettaient la paix. Je descendis aussitôt avec un assortiment d'étoffes de soie et des outils de toute espèce. Je les distribuai aux chefs en leur témoignant ma douleur du désastre arrivé la veille et en les assurant qu'ils seraient punis. Les bons insulaires me comblèrent de caresses. Le peuple applaudit à la réunion, et en peu de temps la foule ordinaire et les filous revinrent à notre quartier qui ne ressemblait pas mal à une foire. Ils apportèrent ce jour et le suivant plus de rafraîchissement que jamais. Ils demandèrent aussi qu'on tirât devant eux quelques coups de fusil, ce qui leur fit grand-peur, tous les animaux tirés ayant été tués raides. Le canot que j'avais envoyé pour reconnaître le côté du nord était revenu avec la bonne nouvelle qu'il y avait trouvé un très beau passage. Il était alors trop tard pour en profiter ce même jour, la nuit s'avançait. Heureusement, elle fut tranquille à terre et à la mer. Le 14 au matin, les vents étant à l'est, j'ordonnai à l'étoile, qui avait son Ophète et tout son monde à bord, d'appareiller et de sortir par la nouvelle passe du nord. Nous ne pouvions mettre à la voile par cette passe qu'après la flûte mouillée au nord de nous. À 11 heures, elle appareilla sur une haussière portée sur nous. Je gardai sa chaloupe et ses deux petites ancres. Je pris aussi à bord, dès qu'elle fut sous voile, le bout du câble de son ancre du sud-est mouillé en bon fond. Nous levâmes alors notre grande ancre, allongeâmes les deux ancres à jet, et par ce moyen, nous restâmes sur deux grosses ancres et trois petites. À 2 heures après-midi, nous eûmes la satisfaction de découvrir l'étoile en dehors de tous les récifs. Notre situation dès ce moment devenait moins terrible. Nous venions au moins de nous assurer le retour dans notre patrie, en mettant un de nos navires à l'abri des accidents. Lorsque M. de la Giraudet fut au large, il me renvoya son canot avec M. Lavary le Roy qui avait été chargé de reconnaître la passe. Nous travaillâmes tout le jour et une partie de la nuit à finir notre eau, à déblayer l'hôpital et le camp. J'enfouis, près du hangar, un acte de prise de possession inscrit sur une planche de chêne avec une bouteille bien fermée et lutée contenant les noms des officiers des deux navires. J'ai suivi cette même méthode pour toutes les terres découvertes dans le cours de ce voyage. Il était 2 heures du matin avant que tout fût à bord. La nuit fut assez orageuse pour nous causer encore de l'inquiétude, malgré la quantité d'encre que nous avions à la mer. Le 15, à 6 heures du matin, les vents étant de terre et le ciel à l'orage, nous levâmes notre ancre, filâmes le câble de celle de l'étoile, coupâmes un des grelins et filâmes les deux autres, appareillant sous la misaine et les deux huniers pour sortir de la passe de l'Est. Nous laissâmes les deux chaloupes pour lever les ancres, et dès que nous fûmes dehors, j'envoyai les deux canots armés aux ordres du chevalier de Suzanet, enseigne de vaisseau, pour protéger le travail des chaloupes. Nous étions à un quart de lieue au large et nous commencions à nous féliciter d'être heureusement sortis d'un mouillage qui nous avait causé de si vives inquiétudes, lorsque, le vent ayant cessé tout d'un coup, la marée et une grosse lame de l'est commencèrent à nous entraîner sur les récifs sous le vent de la passe. Le pis-aller des naufrages qui nous avaient menacés jusqu'ici avait été de passer nos jours dans une île embellie de tous les dons de la nature et de changer les douceurs de notre patrie contre une vie paisible et exempte de soins. Mais ici, le naufrage se présentait sous un aspect plus cruel. Le vaisseau porté rapidement sur les récifs n'y eut pas résisté 2 minutes à la violence de la mer et quelques-uns des meilleurs nageurs eussent à peine sauvé leur vie. J'avais, dès le premier instant du danger, rappelé canot et chaloupe pour nous remorquer. Ils arrivèrent au moment où, n'étant pas à plus de 50 toises du récif, notre situation paraissait désespérée, d'autant qu'il n'y avait pas à mouiller. Une brise de l'ouest, qui s'éleva dans le même instant, nous rendit l'espérance. En effet, elle fraîchit un peu, et à 9 heures du matin, nous étions absolument hors de danger. Je renvoyai sur le champ les bateaux à la recherche des ancres, et je restai à louvoyer pour les attendre. L'après-midi, nous rejoignîmes l'étoile. À 5 heures du soir, notre chaloupe arriva ayant à bord la grosse ancre et le câble de l'étoile qu'elle lui porta. Notre canot, celui de l'étoile et sa chaloupe, revinrent peu de temps après. Celle-ci nous rapportait notre ancre à jet et un grelin. Quant aux deux autres ancres à jet, l'approche de la nuit et la fatigue extrême des matelots ne permirent pas de les lever ce même jour. J'avais d'abord compté m'entretenir toute la nuit à portée du mouillage et les envoyer chercher le lendemain. Mais à minuit, il se leva un grand frais de l'est-nord-est qui me contraignit à embarquer les bateaux et à faire de la voile pour me tirer de dessus la côte. Ainsi, un mouillage de 9 jours nous a coûté 6 ancres, perte que nous n'aurions pas essuyée si nous eussions été munis de quelques chaînes de fer. C'est une précaution que ne doivent jamais oublier tous les navigateurs destinés à de pareils voyages. Maintenant que les navires sont en sûreté, arrêtons-nous un instant pour recevoir les adieux des insulaires. Dès l'aube du jour, lorsqu'ils s'aperçurent que nous mettions à la voile, Hereti avait sauté seul dans la première pirogue qu'il avait trouvée sur le rivage et s'était rendu à bord. En y arrivant, il nous embrassa tous. Il nous tenait quelques instants entre ses bras, versant des larmes et paraissant très affecté de notre départ. Peu de temps après, sa grande pirogue vint à bord chargée de rafraîchissements de toutes espèces. Ses femmes étaient dedans, et avec elles ce même insulaire qui, le premier jour de notre atterrage, était venu s'établir à bord de l'étoile. Hereti fut le prendre par la main, et il me le présenta, en me faisant entendre que cet homme, dont le nom est Aoturu, voulait nous suivre, et me priant d'y consentir. Il le présenta ensuite à tous les officiers, chacun en particulier, disant que c'était son ami qu'il confiait à ses amis, et il nous le recommanda avec les plus grandes marques d'intérêt. On fit encore à Hérétie des présents de toute espèce, après quoi il prit congé de nous et fut rejoindre ses femmes, lesquelles ne cessèrent de pleurer tout le temps que la pirogue fut le long du bord. Il y avait aussi dedans une jeune et jolie fille que l'insulaire qui venait avec nous fut embrassée. Il lui donna 3 perles qu'il avait à ses oreilles, la baisa encore une fois, et malgré les larmes de cette jeune fille, son épouse ou son amante, il s'arracha de ses bras et remonta dans le vaisseau. Nous quittâmes ainsi ce bon peuple, et je ne fus pas moins surpris du chagrin que leur causait notre départ, que je l'avais été de leur confiance affectueuse à notre arrivée.